Du mot à la note, une émission présentée par Alain Nice.
Aujourd'hui, Guillaume Apollinaire et le pont Mirabeau. Amis de la radio, bonjour. Certaines œuvres, parfois, acquièrent dans la durée une notoriété équivalente à celle de leur auteur. Ainsi en va-t-il de ce poème de Guillaume Apollinaire, Le pont Mirabeau. Qui n'a rien lu d'Apollinaire sait, au moins, que ce pont de Paris se trouve évoqué, conjointement à la Seine, en quelques strophes d'une œuvre de poésie. Ce n'est certes pas lui, pourtant, qui fournit le sujet du poème. Le pont Mirabeau, solidement planté sur un sol ferme, occupe en la circonstance la position d'un témoin, imperturbable, de l'écoulement du temps, qui emporte toutes choses, même celles que l'on croyait pérennes, et bien imprudemment quand il s'agit du sentiment amoureux. Je fais lecture du texte. Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
Amour, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. passent les jours et passent les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire, sur une musique de Léo Ferré, chantée ici par Yvette Giraud, une interprète un peu oubliée aujourd'hui. On ne saurait s'étonner que ce poème ait attiré l'attention de l'amateur éclairé de poésie que fut Léo Ferré. Figurer la fuite du temps par l'écoulement de l'eau n'est pas nouveau quand Apollinaire publie Le pont Mirabeau en 1912. La tradition romantique a exploité cette veine à plusieurs reprises avant lui. Ainsi, Alphonse de Lamartine qui, en 1817, écrit dans « Le lac » « L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons ». On en dira de même du thème de l'instabilité du sentiment amoureux et de notre tragique impuissance à lutter contre l'évanescence des choses. Mais, comme toujours, c'est la forme de l'œuvre qui en fait la richesse et la nouveauté. Ainsi, dans Le pont Mirabeau, la plainte d'Apollinaire se perçoit, au-delà de la signification des mots, jusque dans les sonorités et le rythme. On remarquera ici la suite d'assonances en « ou »,« coule »,« amour »,« toujours » et en « on »,« pont »,« vont »,« restons »,« onde », qui traduisent la langueur du poète. La reprise des rimes en « n » et « as », de même que les deux vers du refrain quatre fois répétés, marque la monotonie. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'absence de ponctuation et le recours à des enjambements imitent la fluidité de l'eau, donc du temps, et s'oppose au flux la fixité du pont Mirabeau, ou bien plutôt, ce qui ressemble à un dédoublement du moi du poète, assistant à l'éloignement des beaux jours marqués du signe de l'amour, ainsi que de lui-même, en tant que soumis au devenir, au même titre que la saveur des événements que nous vivons quand ils nous agréent. De fait, le pont Mirabeau suit de la rupture d'Apollinaire avec Marie Laurencin, illustratrice et décoratrice de ballet, poète, mais dont l'histoire de l'art a retenu le nom, surtout pour ses œuvres de peinture et de gravure. Durant cette liaison qui aura duré 5 ans, de 1907 à 1912, le couple avait coutume de s'adonner à des promenades sur les quais près du pont Mirabeau. De nombreux poèmes en naîtront, dont « Marie », où l'artiste se voit comparé à un mouton en raison de sa chevelure volumineuse et bouclée. Léo Ferré a donné musique à ce texte également. Nous l'écoutons.
Dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand? C'est là ma clotte qui sautille, tout toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine. Et mon mal est délicieux. Ils s'en vont dans la neige, flocons de laine et ceux d'argent. Des soldats passent et que neige. Un cœur à moi, ce cœur changeant. Sais-je où s'en iront tes cheveux, crépus comme mer qui moutonne? Sais-je où s'en iront tes cheveux et tes mains feuilles de l'automne, que jonchent aussi nos aveux? Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule, ne tarde pas. Quand donc finira la semaine? Marie, vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand? C'est la maclotte qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Marie,
Apollinaire attend le retour de Marie, mais en vain désormais. Le pont Mirabeau l'en assure, qui se tient là comme le perpétuel témoin des amours envolées du poète. Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne tarit pas. Cette rupture, cependant, n'a rien de surprenant. C'est par Marie Laurencin qu'Apollinaire parvient à entretenir sa passion pour un art qui transgresse les règles académiques. Lorsqu'il la rencontre en 1907, il n'est alors qu'un obscur poète qui publie des contes et des poèmes dans des revues, tout en travaillant dans des institutions boursières pour gagner sa vie. Elle lui permet de maintenir des relations avec Pablo Picasso et un milieu où il trouve des financements pour la publication d'œuvres qui lui apportent la notoriété, comme par exemple Le Bestiaire, illustré de gravures de Raoul Dufy, un recueil dans lequel Apollinaire brosse le portrait d'animaux à la manière des fables de La Fontaine. Mais Marie finit par se fatiguer des excès d'alcool du poète et de sa violence aussi. « Il a le vin trop mauvais, dit-elle à ses amis, sans compter que, je la cite, elle en avait assez de tremper la soupe de Guillaume. » Du côté d'Apollinaire, maintenant, son engouement pour Marie Laurencin en 1907 et le souvenir déchirant de l'adieu en 1912 dont nous parle le pont Mirabeau, c'est la répétition de ce qu'il a déjà vécu. Il a 27 ans quand il rencontre Marie, 4 ans après la fin sans retour possible d'une liaison avec une gouvernante anglaise, Annie Pleydon. Et quand, en 1909, 2 ans après le début de ses amours avec Marie Laurencin, il publie le long poème intitulé « La chanson du mal-aimé », il annonce dans l'épigraphe ce qui sera désormais le lot de ses amours sans qu'il s'en doute alors. « Je lis et je chantais cette romance en 1903 sans savoir que mon amour, à la semblance du beau phénix, s'il meurt un soir, le matin voit sa renaissance. » Écoutons le premier épisode de la chanson du mal-aimé qui en compte 7. L'ensemble de cette suite de poèmes fut mis en musique par Léo Ferré pour orchestre symphonique.
Et je chantais cette romance en 1903 sans savoir que mon amour, à la semblance du beau phénix, s'il meurt un soir, le matin voit sa renaissance. Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre. Et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. Nous emplions entre les maisons.
tombent ces vagues de briques, si tu ne fus pas bien aimé. Je suis le souverain d'Égypte, sa sœur épouse, son armée. Si tu n'es pas l'amour unique, au tournant d'une rue brûlant de tous les feux de ses façades. Plaît du brouillard sanguinolent où se lamentaient les façades. Femme lui ressemblant, lui ressemblant. C'était son regard d'illumine, la cicatrice à son cou nu, sortie saoule d'une taverne. Au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même, lorsqu'il fut de retour enfin dans sa patrie, le sage Ulysse, son vieux chien de lui, se souvint près d'un tapis de haute lisse, sa femme attendait qu'il revînt. L'époux royal de sa compta la de vaincre se réjouit quand il la retrouva plus pâle d'attente et d'amour. Caressant sa gazelle mâle, j'ai pensé à ces rois heureux lorsque le faux amour est celle dont je suis encore amoureux. Heurtant leurs ombres infidèles, me rendit si malheureux.
regret sur quoi l'enfer se fonde, qu'un ciel d'oubli s'ouvre
à mes voeux. Pour son baiser, les rois du monde seraient morts. Les pauvres fameux, pour elle, eussent vendu leur ombre.
Chauffer un cœur plus glacé que les 40 de Sébaste. Moins que ma vie martyrisée.
Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez naviguer dans une onde mauvaise à boire, avons-nous assez divagué de la belle.
Adieu, faux amours confondus avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue l'année dernière à l'Allemagne et que je ne reverrai plus.
Voie lactée, ô sœur lumineuse, des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts, suivrons-nous dans ton cours vers d'autres nébuleuses. D'une autre année. C'était l'aube d'un jour d'avril. J'ai chanté ma joie bien-aimée, chanté l'amour à voix virile, au moment d'amour de l'année.
La chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire, que Léo Ferré a mis en musique pour ensuite régler toute l'orchestration et enfin diriger lui-même l'exécution. On oublie trop souvent que Ferré a, dans sa première jeunesse, reçu une solide formation musicale dans un conservatoire. La passion amoureuse d'Apollinaire pour Annie Pleydon date de 1902. Le poète avait alors 22 ans, et gagnait sa vie comme précepteur auprès de la fille d'une aristocrate allemande, veuve d'un comte français. Annie Pleydon, une Anglaise du même âge qu'Apollinaire, assurait, elle, les fonctions d'une gouvernante. En août 1902, le contrat d'Apollinaire arrive à son terme. Le poète revient à Paris. En novembre 1903, il se rend à Londres pour tenter de reprendre contact avec Annie Pleydon, rentré en Angleterre. Il y retourne 6 mois plus tard, en mai 1904, la retrouve, mais il se heurte au refus de la jeune fille de reprendre leur relation. Elle s'installe aux États-Unis peu de temps après, où des spécialistes d'Apollinaire la découvriront 50 ans plus tard devenue Mrs. Postings. Elle ignorait alors la destinée de son ancien amant, qu'elle ne connaissait que sous le nom de Wilhelm de Kostrowitzky, le nom de naissance d'Apollinaire, que, de plus, ses amis appelaient Kostro. Le poème que nous venons d'entendre par la voix de Léo Ferré fut écrit une fois Annie Pleydon partie aux États-Unis en 1904, donc, à une époque où Kostro traînait sa désillusion dans Paris. Le thème du malheur amoureux s'y conjugue avec celui de l'errance. Une atmosphère de mystère imprègne le texte, propice à l'éclosion du souvenir et au rapprochement avec des légendes. Errant aux abords d'un quartier malfamé, le narrateur du récit fait la rencontre inopinée d'un voyou, un rabatteur qui cherche à l'entraîner vers une maison de plaisir. Il ressemble à Annie, mais il a un regard faux. C'est pourquoi sa vue engendre immédiatement le souvenir de la femme aimée et traîtresse. C'est le dépit qui dicte à l'amant cette vengeance plutôt facile. Et ce rapprochement injurieux, que d'ailleurs Apollinaire déclarera regretter 11 ans plus tard, en 1915, dans une lettre adressée à Madeleine Pagès, alors sa fiancée. L'impureté et la déchéance de la femme du poème fait douloureusement ressentir à celui qui se présente comme mal aimé la fausseté de l'amour en général. L'amour honnête n'existerait alors que dans les légendes, le modèle se trouvant en Pénélope, accueillant Ulysse en épouse fidèle après ses 20 années d'absence. Il faut croire que nous nous égarons quand nous croyons aux promesses d'amour que nous devrions savoir impossibles à tenir.
C'est le printemps, viens-t'en, Paquette, te promener au bois joli. Les poules dans la cour caquette, l'aube au ciel fait de roses plis. L'amour chemine à ta conquête. Mars et Vénus sont revenus, ils s'embrassent ta bouche folle, devant des sites ingénus. Où sous les roses qui feuillolent, de beaux dieux roses dansent nus. Ma tendresse est la régente de la floraison qui paraît. La nature est belle et touchante, pensiflotte dans la forêt. Les grenouilles humides chantent.
C'était Obad, chanté à Laetare un an passé, la deuxième pièce de la chanson du mal-aimé. On aura reconnu Léo Ferré à nouveau. On ne pourrait dire que la malheureuse expérience d'Apollinaire l'ait rendu méfiant. Marie Laurencin succède aisément à Annie Pleydon, nous l'avons vu. De même, la comtesse Louise de Coligny-Châtillon succédera à Marie sans éveiller la nostalgie des jours anciens. Les tristes réflexions du poète dans le pont Mirabeau semblent bien oubliées et en même temps confirmer l'épigraphe de la chanson du mal-aimé. En août 1914, soit 2 ans après la séparation d'avec Marie Laurencin, Apollinaire se trouve à Paris, seul et désœuvré. La guerre, tout juste commencée, a dispersé tous ses amis. Comme beaucoup de ses camarades que n'atteignait pas la mobilisation, il avait voulu s'engager dès le début des hostilités. Mais, étranger de nationalité polonaise, Guillaume de Kostrovitsky, qui n'est alors Guillaume Apollinaire qu'en poésie, devait déposer au préalable une demande de naturalisation, ce qui fut fait fin août. Il n'avait plus qu'à attendre l'issue, incertaine et sans doute lointaine, de sa démarche. Aussi n'hésite-t-il pas à se rendre à l'invitation d'un ami à Nice. C'est là qu'il rencontre Louise de Coligny, que bientôt il appellera Lou. Alors infirmière bénévole dans un hôpital militaire, elle mène en même temps une existence mondaine de jeune femme émancipée. Lou est ardente, indépendante, aventureuse, imprudente, frivole aussi. C'est une personnalité qui séduit immédiatement Apollinaire, mais d'abord vainement. Le 6 décembre 1914, Guillaume de Kostrovitsky rejoint le 38e régiment d'artillerie de campagne à Nîmes pour y suivre une formation militaire. Contre toute attente, Lou le suit. Cet éclat de passion libère en lui des forces qui, pour s'être déjà manifestées, n'avaient jamais éclaté avec une telle violence. Il s'abandonne à une fête de la chair avec un déchaînement et une volonté de domination qui laisse d'ailleurs parfois bien perplexe sur son comportement amoureux. Lou le décevra néanmoins. Ils rompent en 1915, la veille du départ d'Apollinaire pour le front de Champagne le 4 avril. Ils se promettent néanmoins de correspondre et de rester amis. C'est bien ce qui se passera, jusqu'au 17 mars 1916, soit le jour où un éclat d'obus blesse le poète gravement à la tête. Écoutons le poème qu'il envoie à Lou le 30 janvier 1915, chanté par Jean Ferrat, qui en a composé la musique.
Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace. Comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirai le bout de tes jolis seins roses. Je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieilliras point de ces belles choses. Rajeunirai toujours pour leur destin galant. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatant ardeur. Mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse étant la plus jolie, ô mon unique amour, ma grande folie.
Si je mourais là-bas, de Guillaume Apollinaire, par les soins de Jean Ferrat, mélodiste reconnu. Ferrat a choisi d'écarter l'avant-dernière strophe du poème. Je la lis. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde. L'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Manquent aussi à la restitution de Jean Ferrat les trois vers qui achèvent cette lettre-poème du 30 janvier 1915. Je les donne ici à entendre. La nuit descend, on y pressent un long destin de sang. Il faut signaler ici une curiosité scripturale. Le poète fait subir à la première lettre de chaque vers une rotation d'un quart de tour vers la droite, ce qui les fait apparaître couchés, à l'horizontale donc. De cette disposition résulte la mise en évidence du nom « loup » en lecture verticale, mais comme orienté vers l'extérieur, à gauche. Faut-il voir ici, de la part de cet amateur de calligramme qu'était Apollinaire, l'expression graphique du sentiment que la passion tend désormais à s'étioler du côté de loup? Car enfin, elle ne lui dissimule nullement qu'elle mène, je la cite, une vie de patachon, pendant que lui, Guy, le canonnier Kostrovitsky, bientôt brigadier, s'initie à la guerre. Mais que faire? Et puis, à partir du surgissement de loup dans la vie de Guy, la leçon du pont Mirabeau ne vaut plus. Apollinaire ne trouvera pas désormais à se complaire dans la nostalgie des amours mortes. D'abord, il rencontre Madeleine Pagès dans le train le 2 janvier 1915, au retour d'une permission passée à Nice avec loup. Elle s'installera très vite dans le cœur du poète et deviendra bientôt sa fiancée. À loup, Apollinaire dit de Madeleine dans une lettre, je lis, « La jeune fille est professeure de lettres au lycée de jeunes filles d'Oran, assez intelligente d'ailleurs et je crois honnête. Mais loup ne saura jamais que Madeleine fut devenue son épouse si, pendant la convalescence qui suivit sa blessure de guerre, il n'avait refusé de recevoir sa visite, se déclarant dans une lettre du 28 août 1916, je cite, « très émotionnable ». La correspondance avec Madeleine, qui jamais ne se mariera, cesse en novembre 1916. On en devine la raison. Apollinaire s'éprend de celle qu'il appelle « la jolie rousse » dans un poème publié en mars 1918 dans la revue « L'Éventail ». La jolie rousse, c'est Jacqueline Kolb qu'il épouse le 2 mai 1918. On doit à Jacqueline Apollinaire, c'est désormais le nom du poète, depuis sa naturalisation, de nombreuses publications posthumes. Car Apollinaire, évacué, blessé, mais vivant des tranchées, meurt de la grippe espagnole le 9 novembre 1918, 2 jours avant l'armistice. On le déclarera pourtant mort pour la France, en raison de son engagement volontaire dans l'armée française. On le voit, Louise de Coligny-Châtillon aura rendu inutile l'image du pont Mirabeau, métaphore du mois d'Apollinaire s'observant pris dans l'écoulement du temps destructeur de la passion amoureuse. N'en reste que le poème, inséré dans le recueil intitulé « Alcool », qui rassemble l'ensemble de son travail poétique de 1898 à 1913. Ce n'est pas peu. Chacun trouvera à s'y référer en cas de besoin. Amis de la radio, au revoir.
C'était Du mot à la note, une émission présentée par Alain Nice.